on y va sur la déprise. Donc, de nouveau, c'est pédagogique, d'accord? Voilà. Donc, mais ce qu'on peut se dire quand même, hein, donc, clairement, c'est que s'il y a des nœuds, il y a des dénouements. Hein, donc, ça, c'est quand même pas mal de se dire ça, déjà. Hein, donc, si on connaît bien les nœuds, on sait où il y a des dénouements. Hein, donc, et en plus, avec la métaphore du filet, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, dans un filet, quand on dénoue un nœud, tous les autres, le filet, ploup, vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas toujours mettre la même force. Quand il y en a un qui commence à se dénouer, les autres aussi. Donc, je pensais à la question des mariages précoces, tu vois. Donc, peut-être il faut trouver le nœud. Où, voilà. Donc, alors, comment est-ce que ça se dénoue, hein, donc, alors, ça se dénoue déjà parce que, en tout cas, les gens avec qui moi j'ai travaillé, ils avaient des sphères qui n'avaient pas été souvent prises. Ah, donc, vous voyez, donc, ben, on le voit par exemple pour les parcours de personnes toxicomanes. Ah, donc, eh ben, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont encore une sphère hors drogue. Ça peut être la copine, ça peut être la salle de boxe, ça peut être, mais il y a une sphère hors drogue. Ben, dans les emprises, il y a souvent, il y a une sphère qui est là, il y a quelque chose qui n'est pas sous emprise. Hein, donc, en tout cas, moi, les gens que j'ai rencontrés, ils n'ont pas été totalement détruits. Hein, donc, ils ont fait des rechutes, ok, mais ils ont fini par faire quelque chose de leur expérience de l'emprise, qui n'était pas une répétition. Hein, donc, bien sûr, ça demande énormément de temps. Hein, donc, par exemple, quelqu'un qui a été incesté, a été sous emprise très jeune, ça nous prendra énormément de temps de décrypter ce qui s'est passé et d'avoir des inflexions de trajectoire. Oui, parce que les choses ont commencé très tôt. Hein, donc, donc, voilà, il faut donner le temps au temps. Alors, comment ça marche? Hein, donc, Judy, elle raconte bien ça. Dans son récit, donc celle qui anime des groupes de personnes qui ont été incestées. Donc, elle dit, voilà, les gens ont toujours à l'intérieur, en tout cas, les gens avec lesquels je travaille, ils ont toujours à l'intérieur une micro-liberté qu'ils ont gardée. Hein, donc, un tout petit espace de pensée propre. Parfois, c'est le souvenir que quelqu'un les aimait. Parfois, c'est quelques facultés rebelles que d'autres leur ont transmises, des facultés créatives aussi. Hein, donc, et donc, les gens, ils vont remobiliser la confiance qu'ils ont eue dans quelqu'un d'autre, des moments de vie, des modes d'expression qui leur ont été transmis, sauf que c'est dans le tiroir, vous voyez. Et à un moment, le tiroir va s'ouvrir. Hein. Par exemple, Clara, qui était une intellectuelle, hein, donc au Chili, elle a fait des études, etc. Elle venait d'une famille aussi où on devait faire des études, où les femmes transmettaient à leurs filles. Oui, il y a un petit souci.
Il y a des gens qui n'entendent pas, j'essaie de monter le son. Vas-y, parle.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui. Okay.
Sinon, on peut enlever le micro. Hein, ça...
Non.
Ce sera pire. D'accord, ok. Ça va. Donc, Clara, vous la voyez, elle est hyper traumatisée. Elle arrive en France. Elle est sous emprise de la ligne radicale, sous emprise de son conjoint, etc. Donc, il y a ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il y a ce qu'on peut lire et ce qu'on ne peut pas lire. Et dans cette ligne, il y a des livres qui sont à l'index. Ça, vous voyez, hein, donc des livres qu'on ne peut pas lire. Alors, personne ne les lit. On ne peut pas les lire. C'est intérieur, quoi. On ne peut pas les lire. Hein, donc, et voilà que dans la communauté où elle vit, là, il y a deux camarades qui arrivent et qui lui prêtent un livre de Reich. Hein, donc, alors, elle dit, ce livre, ce n'était pas dans la ligne du parti. Et pourtant, moi, je lis ça. Et ça, c'est énorme pour moi. Parce que ce livre, ça me réveille. Il parle des plaisirs du corps. Il m'électrifie. Reich, il développe des théories par rapport à l'orgasme. Surtout, il y a un passage sur la tristesse du renoncement à la sexualité par culpabilité. Comment parfois l'amour-tendresse peut cacher un désengagement de toi-même. Tu te consacres à l'autre, à le soigner. Mais c'est aussi une manière de travestir ta dépression. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais je suis enfermée ici, je suis cloîtrée. Je me consacre totalement à mon mari, mais c'est aberrant, mais je n'existe pas. Mais je dois faire quelque chose d'autre de ma vie qu'être un petit chat à côté de lui. Mais je suis une belle femme. Et je sentais mon corps se réveiller. Et à ce moment-là, mon second mari entre en jeu. pendant ses soirées entre camarades, à rester là, à discuter, à chanter des chansons du pays. Il veut m'apprendre à danser le tango. Et là, je le sens, les vibrations, les sentiments qu'il y a entre nous. Et ça, ça a vraiment joué. Et on voit que pour Clara, c'est finalement la remobilisation. Elle est venue peut-être par ce livre, mais surtout parce que ce livre parlait du corps. Donc elle dit souvent que ces hormones ont... Attends, comment elle me dit ça? Oui. J'ai été mobilisée par mes hormones, alors que j'ai toujours été une intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que ouais, ça a commencé par le corps. Hein, donc, puisque le corps est sous emprise, elle dit j'étais talibanisée. Hein, donc, c'est cette relation sincère. Et alors, ça va être affect contre affect. Vous voyez? Les affects qu'elle vit et les affects de la ligne radicale qui vont entrer. Et bon, ça lui mettra des années. Hein, donc. Il y a d'autres femmes qui disent qu'à un moment donné, il y a des mots qui ont porté, hein, des mots que l'on dit les copines, qui ont porté. Hein, donc, par exemple, Jodie, elle explique qu'il y a un moment donné, elle s'est réveillée. Hein, donc, oui, c'est pour ça que j'ai mis « se réveiller », elle s'est réveillée. Les gens disent que c'est le déclic, mais ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas vraiment le déclic, parce qu'on voit, c'est comme sortir des drogues, quoi. On a des hauts, des bas, mais on a des moments importants. Donc, c'est comme si à un moment donné, les gens, il y a quelque chose qu'ils commencent à voir qu'ils ne voyaient pas. Vous voyez, la double scène. Ils sont complètement dans la première scène et puis ils commencent à voir la double scène. Donc, et ça, c'est un moment important. Par exemple, elle dit qu'elle parle à son amie et qu'elle lui dit que tous les jours, elle écoute le bruit de la voiture de son mari, quoi, sa façon de descendre, de marcher sur le gravier, sa façon d'ouvrir la porte. Et qu'en fonction de ces bruits-là, elle essaye d'adapter son attitude et que ses enfants aussi font ça. Ses enfants aussi écoutent. Et ils vont se mettre à un endroit de la maison. Quoi. Et puis son ami lui dit « Mais est-ce que tu réalises ce que tu es occupé à me dire ?» Donc, tous les jours, quand il rentre, tu écoutes. Mais c'est hallucinant. Si elle ne m'avait pas dit « c'est hallucinant », je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Vous voyez, brusquement, ce mot a porté, hallucinant, quoi. Elle était dans un univers halluciné. Elle ne voyait pas ce qu'il y avait en dessous. Hein, donc, et alors, pour elle, ça a été très vite. Hein, donc, quelque chose se passe qui réveille la capacité de voir ce qu'on ne voyait pas. Parfois, c'est simplement une pulsion de vie qui vient de l'autre vie qu'on avait avant, hein, et qui remonte, quoi. Donc, après, il faut se déconditionner. Et ça, ça prend du temps, se déconditionner, parce que le conditionnement, il est puissant, quoi. Par exemple, Iris, qui travaille maintenant dans une maison maternelle, une maison d'accueil pour femmes et enfants en Belgique, elle dit « On ne se sépare pas comme ça d'un homme violent. Moi, j'avais peur. Rien qu'à penser au fait que j'allais le quitter, qu'il ne serait plus dans ma vie, je me sentais... Enfin, j'ai perdu 10 kilos, je ne mangeais plus. Enfin, je ne sais pas expliquer cette sensation-là. Je me souviens, je pleurais, je me tordais de douleur. J'avais une sensation dans les intestins, dans le ventre, à chaque fois que je pensais à lui. Il m'a fallu 6 mois pour me détacher de lui. Parce que quelquefois, il revenait et je réessayais. Il était comme une drogue pour moi. » Ça ne vous fait pas penser à quelque chose qu'elle dit, là, ces mots du terrain? Non? Moi, tout de suite, ça m'a fait penser à un truc. Je la voyais aussi. Hein. Elle se tordait, etc. Moi, je voyais les toxicomanes en manque. Vous voyez, qui ont mal aux os, froid, qui perdent des kilos, qui se liquéfient, qui se vident littéralement, qui vomissent. Vous voyez, au moment du manque. Hein, donc, elle, ce qu'elle me racontait, je trouve, sauf que c'était son rapport à un homme violent, c'est ça. Donc, elle me racontait cette histoire-là. Alors, il ne faut pas croire que c'est linéaire comme trajectoire. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes, je trouve, qui avaient des épisodes où ils s'étaient automédiqués dans les drogues, dans l'alcool, dans les médicaments, avant l'emprise, et qu'après l'emprise aussi. Hein, donc, par exemple, Clara, quand elle est sortie avec son chéri là, de cette secte, voilà, il a fallu au moins 3 ans avant qu'il reprenne des études. Finalement, ils l'ont fait. Lui est devenu médecin, elle est devenue psychologue. Bon. Mais voilà, elle dit, l'alcool, c'est une solution de merde. Ça maintient la souffrance à distance, mais ça t'enlève aussi une partie de ta capacité à faire face, à changer les choses. Reprendre des études, mais sans l'alcool, on l'aurait fait beaucoup plus tôt. On disait, on va faire ça, on va faire ça. Et puis le lendemain, on allait chercher une autre bouteille et on redisait, on va faire ça, on va faire ça. Et au final, on ne faisait rien. Donc vous voyez ce passage, donc difficile à élucider aussi. Alors après, il y a des étapes aussi dans la rage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ces hommes et ces femmes qui ont été sous emprise, ils vont passer de la honte et du silence à la rage. Ils vont exploser, un peu comme une émeute. Vous voyez, une émeute sur le plan collectif. Ce n'est pas une organisation politique, une émeute, pour faire changer quelque chose. C'est une émeute, ça. Ça explose, tous azimuts, et ça détruit tout sur son passage. Eh bien, ces femmes et ces hommes, ils racontent ça. Ils racontent la rage. Donc, et au début, donc, vous voyez, au début, exprimer sa rage. Mais après, ça devient utiliser cette rage pour faire quelque chose de super difficile qu'on n'aurait jamais pensé qu'on allait faire et qui va servir à d'autres, donc, ou dans la recherche, ou qui dans le travail social, qui dans, comme Clara dans le travail communautaire, qui dans les mouvements syndicaux, qui, vous voyez, donc cette rage est une lampe. Va être utilisée. Elle va être toujours là, mais elle va être utilisée à un moment. À un moment, elle explose. Ça, c'est très dangereux aussi pour les gens. Par exemple, les femmes qui sont hébergées, vous voyez, hein, ces femmes qui sont hébergées, qui ont vécu sous emprise. Après, elles ne supportent plus l'autorité, elles ne supportent plus les règles. Elles ont une rage sur les règles, parce qu'elles ont connu l'autorité sous format abusif. Et les autres femmes vont les pousser devant. Vas-y, dis-leur, t'as raison. Oui, on va être poussé devant, donc, parce qu'elles sentent cette rage. Donc, elles sentent. Et donc, cette femme ou cet homme va être un bouc émissaire, parce qu'il va dire, j'en ai eu le bol, etc. Moi, je vais pouvoir laisser mes enfants partir, mais moi, je n'ai pas vécu pendant X années, et puis qu'est-ce que c'est que ce truc. Et puis, vous voyez un peu... Et les gens les poussent, parce qu'ils sentent ça. Donc, ces gens vont... Comment on appelle ça? Être le paratonnerre. On dit ça, oui, être le paratonnerre de la violence institutionnelle qui existe dans toutes les institutions. Et donc, ces femmes, par exemple, on le voit beaucoup, elles basculent vers la rue parce qu'on les jette, parce que l'institution ne peut pas supporter cette manière d'être avec les règles, et les enfants sont placés. Donc, cette question de la rage, elle est terriblement concrète, je dirais, terriblement concrète, et terriblement difficile, parce que c'est tous les mécanismes sacrificiels du bouc émissaire, donc, que les gens qui se sentent hyper coupables, il y a des gens qui rentrent dans l'emprise aussi parce qu'ils se sentent hyper coupables de quelque chose, vous voyez, donc, et puis ils doivent expier, et donc ils se mettent dans des situations de rage, où on les met en situation de bouc émissaire, mais ils expient toujours plus, et finalement ça leur crée plus de problèmes que s'ils étaient restés sous emprise. Et ils disent, oh, si j'avais su, je serais restée avec mon mari, parce qu'au moins les coups, je pouvais les supporter, mais sans mes gosses, ça c'est pas possible. Vous voyez un peu, hein, donc, c'est la violence dont tu parlais tout à l'heure aussi. Hein, donc, ouais. Les subversifs, c'est aussi des cibles. Hein, donc, mais après, il y a tout un travail. Quand on comprend le mécanisme, on sait, voilà, c'est la rage, ok. Maintenant, il faut tenter de reprendre une place dans le monde et que cette rage serve à quelque chose. Parce que, franchement, la rage, c'est extraordinaire. Hein, ça vous fait faire des choses extraordinaires quand vous savez la canaliser. Hein, donc... Après, bon, il y a aussi l'aide qui est offerte. Il n'y a pas seulement prendre la parole, il y a l'aide qui est offerte ou pas offerte. Par exemple, moi, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas été aidés tellement par les structures, hein, qui ont été aidés par des copains ou des copines. Donc, il y a des gens qui sont capables de prendre des sacrées responsabilités dans le monde. On n'est pas tous des Trump. Enfin, je veux dire, franchement, c'est incroyable quand on voit les trajectoires des gens. Les petites micro-ressources qui ont existé et qui ont été des tremplins. Par exemple, Ada. Vous vous rappelez Ada, là, que j'arrivais pas à suivre, qu'heureusement que je l'enregistrais, là, qui avait un discours tout à fait explosé, quoi. Alors, elle me dit... Là, c'est les séances suivantes. Elle a déjà récupéré. Hein. Alors, elle me dit, quand je suis allée chez mon amie, j'avais déjà un peu... Enfin, récupéré un brin de vision, quelque chose de mon indépendance. Elle me l'avait déjà proposé, si tu as besoin, mais j'avais dit non. Ça m'a pris du temps, mais c'était là. Elle m'avait déjà donné de la force, parce que je me disais, en cas où, ben j'ai. Mais je me disais, ben non, je peux pas. J'ai pas de boulot, j'ai pas de perspective, j'ai rien, j'ai les enfants, je peux pas débarquer chez mon ami comme ça. Mais un an plus tard, j'ai dit à mon ami, oui, oui, je veux bien débarquer chez toi, mais avec mes enfants. Et elle, il n'a pas fallu insister. Et mon énergie est revenue avec la facilité à laquelle j'ai été accueillie chez elle. On s'appréciait, on échangeait beaucoup. Ça remonte l'estime de soi. Elle est venue aussi par le travail, parce que j'ai réussi à en trouver, alors que je n'y croyais pas moi-même. Et là, on était dans la joie toutes les deux. Oui, donc, parfois, c'est un lien qui va être le démarrage. Alors pourquoi ? Vous voyez, la proposition, c'était un an avant. Ça a fait trace, c'est arrivé un an plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ce gars en était pris un de ses enfants. Et donc, voilà, elle s'était réveillée, du coup. Hein, donc, poum. Alors, pour Serge, ce n'est pas encore le mouvement syndical et tout, parce que déjà, il n'y a pas de syndicat possible, parce que cet employeur a réussi à scinder leur contrat avec une partie en Belgique, une partie au Luxembourg, une partie, vous voyez. Et donc, ils n'ont pas droit au chômage. Enfin, il y a 36 000 possibilités pour maintenir des gens sous emprise professionnelle. Déjà, qu'il n'y ait pas de recours, qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir accès à rien, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, déjà, lui, il se rend compte, en travaillant avec moi, il est aussi passionné que moi par cette question-là. Et donc, il réfléchit, il me téléphone, il me dit « oui, il y a encore eu ça et tout ». Et puis, tu sais, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est de l'emprise. Tu permets que j'aille voir un peu les chauffeurs et discuter Bah oui, que je dis, bien sûr, je te permets. Mais bon, enfin, c'est un gros risque hein, d'aller voir les autres chauffeurs. Je me dis, s'il veut le faire, il veut le faire, mais bon. Et puis, quand même, ils arrivent à la conclusion là que quand même, ils grattent quoi. À Pandore, ils grattent tout le temps quoi. Donc ils disent, exagèrent, ils veulent tellement gratter, jusqu'à un moment où on dit, là c'est fini, là il y a quelque chose qui ne va plus. Parce qu'on commence tous à être écœurés parce que c'est de pire en pire. Et c'est arrivé à un stade que maintenant on forme un petit clan. Au début c'était chacun pour soi. Et puis sur WhatsApp, il y a des chauffeurs qui ont commencé un petit peu à se parler entre eux. Pas tous, parce qu'il y a toujours des faux culs. Mais on essaye d'être un groupe, d'être solidaire. On est en quartier ouvrier, hein, donc il y a une tradition hein, d'être solidaire. Ça a fait beaucoup. On fait plus attention sur la route. On se dit, tant pis si on perd un client. Et si après on se fait engueuler par le dispatcher, on laisse dire. De toute façon, maintenant qu'on parle, on le sait, il a besoin de nous. Vous voyez ? Donc, maintenant qu'on parle, on le sait, il a besoin de nous. En fait, elle se réveille, elle voit il commence à voir la double scène. Hein, donc, c'est un processus d'élucidation. Et c'est comme une recherche que les gens font sur leur propre histoire, sur ce qui se joue pour eux. Quoi. Donc, Après, il y a aussi des contre-pouvoirs collectifs dans les lieux où l'emprise sévit. Donc, je pense par exemple à une cité dans les quartiers nord de Marseille où il y avait ce groupe d'habitants. Ces actions-là, ils m'ont vraiment fascinée. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, je les ai suivis pendant presque 10 ans pour voir un peu comment ils fonctionnaient, hein, ce groupe. Et c'était... C'est un groupe qui s'appelait... Attendez, comment je l'ai appelé pour que ça soit anonymisé tout en restant très, très clair. Oui, c'était... j'ai oublié. Un groupe d'habitants à l'épreuve du trafic. Voilà, c'est ça. À l'épreuve du trafic. Donc, ce n'était pas contre les drogues, contre les dealers. C'est l'idée qu'ils devraient toujours vivre avec le trafic. Et ils ne peuvent pas imaginer, ce n'est pas possible d'évincer le trafic de leur cité. Mais ils peuvent cohabiter avec le trafic. Alors, pour ce faire, ils ont commencé par inviter des gens, dont moi, j'étais allée sur la construction d'identité masculine en milieu précaire. Rien à voir. N'empêche que c'est quand même que des femmes. Il y avait quelques hommes, mais beaucoup d'hommes qui ont un enfant dans le trafic, ils essayent plein de trucs. Ils essayent de l'enfermer, de renvoyer au pays, de ceci, de ceci, etc. Mais quand ils n'arrivent plus, et quand leur gamin est plus puissant qu'eux, parce qu'il a tous les potes du trafic, et ils menacent, à un moment, ils coupent. Ah, donc, mais les mères, pas. Pas les Marseillaises, en tout cas, que j'ai connues là. Elles ne coupent pas. Ah, donc, c'est des loups avec leurs petits. Hein. Je trouve que c'est vraiment ça, c'est des loups. Quoi. Elles s'accrochent. Quoi, hein. Donc, après, elles se sentent au début, elles ont honte, elles se sentent hyper coupables. Tout le monde les regarde mal dans la cité, elles sont un môme dans le trafic et tout. Et puis, dans ce groupe, elles se sont déculpabilisées ensemble. Et ça, c'est important. Hein. Donc, c'est sortir du silence dont on parlait. Hein. Donc, essayer de comprendre. Et donc, peu à peu, elles ont mis au point ce qu'elles appellent la méthode quartier. Alors, oui, En fait, c'est assez chouette la méthode Cartier. Hein. C'est donc d'abord être ensemble pour bien se déculpabiliser, dire que c'est pas de notre faute si notre mot met dans le trafic. Hein. Donc ça prend déjà beaucoup de temps. Hein. Donc méthode Cartier, c'est déjà être ensemble. Quoi. Donc pas tout prendre dans le collectif. Et puis il y a eu l'idée aussi que voilà qu'il fallait que l'État assume ses missions régaliennes. Donc elles se sont organisées avec des professionnels du centre social. Elles ont interpellé des journalistes. Parce que ce qui courait dans la presse, c'était beaucoup « Ouais, les mères, enfin, les familles de la Cité du Miroir, elles sont très à l'aise avec le trafic. Dans le fond, même elles l'organisent. Parce que ça leur permet quand même de se nourrir. Quoi. Donc, c'est impossible d'intervenir dans cette cité parce qu'il y a des grandes familles du trafic, etc. » Et donc, elles ont fait des communiqués en disant « Non, non, nous, on n'est pas des familles du trafic, nous, on est victimes du trafic, on est à l'épreuve du trafic. Hein, » donc et on doit être aidé. On peut pas assumer les missions de l'État en tant que parent. C'est l'État qui doit l'assumer. Elles ont même interpellé le préfet. Elles ont aussi amené, donc elles ont harcelé. Et Cartier savent bien faire ça, hein, harcelé. Jusqu'à pouvoir convoquer chez le préfet les trois bailleurs sociaux qui laissaient le quartier complètement à l'abandon avec les gravats et les trous dans les bâtiments où les trafics et les nourrices peuvent se loger. Quoi. Donc, oui. Puis un guetteur qui s'est fait tuer. Et alors elles ont pris possession du terrain. Elles ont fait une espèce de comité de veille avec les habitants. Donc, pour que même quand il y a des hommes cagoulés, même quand il y a des meurtres, etc., on n'abandonne pas le terrain au réseau. Donc on reste présent sur le terrain, on sort les chaises, on n'a pas peur. Vous voyez, donc, on garde un peu les pratiques des résistants pendant la guerre. Hein, donc, ouais, c'est la conscience individuelle, puis c'est la conscience collective, et puis c'est la gouvernance du mouvement hein, donc, qui a fonctionné chez ces femmes. Hein, donc. Par exemple, il ne faut pas que les réseaux soient les seuls à occuper l'espace. Il faut être réactif. Il faut qu'il y ait le moins de vide possible. Quand les activités citoyennes s'arrêtent, quand les espaces sont abandonnés, il y a du vide et les trafics prennent possession du territoire. Donc, et alors, elles ont fait des liens aussi, parce que la plupart d'entre elles avaient connu de la violence conjugale et intrafamiliale ou de la violence liée à des moments de radicalisation de leur mari. Donc, elles ont fait des liens entre la façon dont leur môme était pris dans le trafic et la manière dont elles-mêmes avaient été prises dans la violence, vous voyez. Donc, et ça a permis de créer aussi quelque chose dans l'élucidation, hein, donc, dans le déconditionnement, hein, donc, sur la question de faire de son expérience un savoir. Et ça a aussi été très important. Attention, hein, le trafic n'est pas parti du quartier, hein. Mais ces femmes, elles se sont quand même sacrément mises en compétence. Hein. Donc, elles sont vraiment sorties de la honte. Il y a une fierté. Il y a une technique, une gouvernance de la résistance qui a été mise en place. Quoi. Voilà un petit peu cette histoire qui n'a pas vraiment de happy end. Donc, mais il y a toute une série de dénouements. Alors, maintenant, regardez quand on met les nœuds. Bon. Ok, hein, c'est pédagogique, hein, c'est bien, hein, d'accord, hein, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, c'est juste une... ouais. Mais regardez, c'est quand même intéressant. Donc on a tous les terreaux, les vulnérabilités là, dont on a parlé, les accidents de la vie, le genre, toutes ces questions, ces moments, etc. Et puis il y a être capable d'imaginer une autre vie que celle auquel on est assigné. Hein, donc c'est ça qui se passe dans la déprise, hein, au départ. On a des plans B, on a des trucs qui commencent à venir. Il y a la mauvaise rencontre, ok. Et puis d'un autre côté, il y a réanimer la capacité de voir la double scène. Hein, donc l'histoire du réveil, se réveiller. Hein, donc on est dans le hop, on voit l'autre, quoi. Hein, donc il y a la machinerie de l'emprise. Et puis d'un autre côté, même si ça prend beaucoup de temps, c'est quand même une opération qui est aussi intellectuelle, de comprendre ce qui est arrivé, hein, donc de comprendre la mécanique de l'emprise, comme Hannah Arendt qui analyse les systèmes totalitaires, parce qu'elle veut quand même comprendre ce qui s'est passé pour sa communauté. Quoi. Donc voilà, y a cet élément, comprendre, elle est importante dans l'emprise, parce que justement la capacité cognitive a été souvent mise à mal, hein, puisque les gens ne pensent plus, hein, donc se remettre à penser. Et puis... il y a la dépendance affective, le secret. Les gens parlent Par exemple, les femmes qui ont été incestées, avec qui j'ai travaillé, je ne les ai pas vues sur l'inceste, l'inceste est arrivé après. Donc, elles disent quand même, elles avaient un secret trésor, c'est-à-dire elles avaient l'impression que c'était un trésor ce secret, de maintenir le secret. Et puis elles ont pris la parole. En fait, elles ont commencé par prendre l'écriture. Elles ont fait une opération de prise d'écriture avec moi, mais c'est quand même prendre la parole. Et c'est avoir après quelque chose de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a écrit. Donc, et ça libère la rage. Donc, alors qu'on est complètement dévitalisé dans l'emprise, hein, sous la dépendance, et dévitalisé, on a plus d'énergie, on a des atteintes cognitives, on a des atteintes au corps, on a des atteintes, on est dans la terreur, quoi, on est sidéré. Donc là, il y a quelque chose qui explose. Et puis après, on voit l'absence de recours. C'est ça qui maintient les gens dans l'emprise. Quand il n'y a pas de recours, quoi, hein, donc, on voit que voilà, ce qui sort de l'emprise, c'est trouver des ressources, trouver des protections, trouver des collectifs. Alors, j'ai des femmes qui sont sorties grâce aux cagnottes populaires. C'est un peu comme les tontines. Vous voyez les tontines ? C'est des modes... L'argent, c'est très important. Quand le 6 du mois, il n'y a plus d'argent. Hein. Donc, les tontines, faire collectiviser l'épargne, c'est essentiel. À travers les tontines, il y a des cercles protecteurs, il y a des liens qui se recréent. Quoi, hein, donc. Et alors, pour les femmes sans papier, c'est vraiment l'accès aux droits. Hein. C'est ça qui est essentiel dans leur parcours de déprise, parce que sinon, si elles n'ont pas accès aux droits, elles sont quand même dans un univers où elles n'ont pas de protection, et donc ça peut revenir très vite. Quoi, hein, donc, après, il y a faire de son expérience quelque chose, un moteur, vous voyez ? Ah, donc, cette expérience est un moteur pour des projets. Ah, donc, que n'auraient pas d'autres gens qui n'ont pas été aussi fracassés ? Ah, donc, qui leur manque un moteur pour tenir dans leur projet. Ah, donc, ici, voilà, faire de son expérience un savoir, ça évite les risques de répétition, puisque justement, la répétition, c'est dans le vide et la transmission aussi de soumission constante, hein, donc, à l'autre. Hein, donc, ici, c'est autre chose. Donc, il y a des nœuds qui se dénouent, quoi. Et donc, c'est compliqué la prise de parole dans l'emprise. Et pourtant, la prise de parole, ça va avec la déprise. Oui, donc, c'est très difficile. Et donc, par rapport à la question que vous aviez, hein, donc, c'est vraiment, par exemple, pour Clara, je suis partie des souvenirs qu'elle avait de son grand-père. On a parlé pendant plusieurs séances de son grand-père. Puis de l'atelier de couture de sa mère, qui lui avait pris la beauté, la beauté des tissus, la beauté des choses. Puis de sa voisine, parce qu'elle avait appris toutes les danses modernes avec sa voisine. Donc, et que c'est ça aussi qui avait joué quand elle avait rencontré son mari et qu'elle avait dansé le tango. C'est, la revitalisation physique était là. Elle n'avait pas été complètement cassée dans le corps. Et puis on a parlé, bien sûr, de toute la période où elle s'est engagée. Et elle s'est aussi radicalisée, c'est vrai, mais elle s'est engagée vraiment dans la lutte armée contre le système. Et puis progressivement, comme ça, toutes ces questions-là, ça a amené à décrypter certains nœuds, certains dénouements. Donc, et puis progressivement, avec les textes qui se construisaient, on voyait apparaître les traits structuraux de l'emprise. Et elle s'en servait beaucoup dans sa clinique. Parce qu'évidemment, descendre en soi, ça permet de trouver des outils pour la clinique, en tout cas. Moi, ce n'est pas mon métier, mais c'était le sien. Et donc, toutes ces facultés rebelles, toutes ces hautes protections qu'elle avait trouvées... c'est devenu un savoir sur sa vie, mais aussi sur son travail, sur le monde dans lequel elle voudrait vivre. Donc, oui. Donc, est-ce qu'on a le temps de voir une étude de cas ? Peut-être on peut peut-être donner la parole à tout le monde et voir... De toute façon, l'étude de cas, oui, dans l'ouvrage « Je n'existais plus », il y a tout un chapitre sur l'histoire de Clara. Donc... Et c'est un chapitre important dans le sens où, au fur et à mesure de son récit, 2 ans après le début de son récit, la fille de Clara a raconté des événements qui se sont passés avec son père et on s'est rendu compte qu'elle avait vécu une emprise incestueuse assez dramatique. Mais Clara, elle avait 65 ans, vous voyez, donc sur quelque chose qui s'était passé il y a 40 ans et il a fallu accompagner d'abord cette jeune fille, cette jeune femme, retrouver les témoins, retourner au Chili, voir ce qui s'était joué là-bas. Hein, donc, créer un espace d'assomption collective entre camarades, vous voyez, parce que ce qui était arrivé à Clara, c'était aussi de son époque. C'était aussi les camarades, c'était aussi la dictature, c'était tout ce qui s'était joué. Faire une limpia collective, faire les deuils, revenir, retravailler avec la gamine, refaire un travail aussi avec un Chilien qui est spécialisé dans toutes les questions de torture, d'emprise, etc. Et donc, très progressivement, il y a quelque chose qui s'est dénoué à travers le récit, qui m'a appris énormément, et qui a appris énormément à Clara. Et donc, il y a tout un chapitre du livre. Donc, vous pouvez sans problème y avoir accès. Donc, soit vous prenez le livre, soit vous pouvez même rentrer directement. Il est virtuel aussi, en virtuel. Vous pouvez prendre juste le chapitre de Clara. Donc, voilà, si on n'a pas le temps de le faire, c'est pas grave. L'important, c'est aussi que vous puissiez aussi nous enseigner vos manières de travailler, de voir dans les situations d'emprise. Donc, comment vous les rencontrez? Je repose la question. Et comment vous arrivez à faire des petits micro-dégagements, quoi? J'ai peut-être... Parce que là, je vous vois pas là. Voilà. Voilà. Comment ça se travaille, que ce soit dans la sphère du travail, dans la sphère de la radicalisation sectaire autour des gourous, que ce soit dans les scènes du trafic et des réseaux, que ce soit dans les scènes intrafamiliales ou conjugales. Donc, comment vous pouvez ou pas travailler certains nœuds, quoi. Parce que j'imagine que ce qui est important aussi, c'est que chacun puisse dire de quoi il s'occupe plus spécifiquement pour que vous puissiez reconstituer du collectif, pour ne pas être perdu devant une situation où les nœuds vous semblent tellement compliqués à travailler que vous ne pouvez pas le faire seul.
Est-ce que personne n'y va, je vais y aller.
Vas-y.
Les autres viendront après. Juste situer sur la question d'emprise, il me semble que ce qui est intéressant de ce que vous amenez, c'est l'ouverture. Un concept qui était rabougri à sa dimension psychologique vient aussi des fois un peu catégoriser de façon simple et amener à l'impuissance de l'intervention. Je trouve que quand on dit emprise rapidement, d'abord on a l'impression que l'emprise c'est un bloc, c'est binaire. Soit on n'est pas sous l'emprise, soit on est sous l'emprise. Ce que vous amenez tout à fait intéressant, c'est que ça ouvre. On est tous faits de facettes. Et vous parlez de ce fait qu'on n'est jamais totalement sous emprise, il y a des petits espaces qui restent, ou des grands espaces qui restent. Je pense qu'il y a l'idée de la progressivité dans l'emprise qui est importante, parce que souvent quand on dit oui, cette femme est sous emprise, on a l'impression d'un bloc. Et ça, du coup, pour travailler avec ça, c'est trouver quelqu'un d'autre qui va travailler sur l'emprise, plutôt psycho, et on se rend impuissant à travailler avec elle. Donc tout ce qui est amené sur le travail de la déprise, c'est d'abord par le travail de repenser la question de l'emprise, avec sa complexité, avec sa progressivité, et l'emprise aussi. Et je trouve que c'est éclairant de ce côté-là. De sortir des catégorisations très simples. Quand on peut dire rapidement elle est sous emprise pour la déposséder à nouveau de sa propre vie. C'est-à-dire, elle est sous emprise, donc on doit agir à sa place. Hein. Soit elle fait un mouvement, soit nous, on se substitue à elle pour penser son bien. Et ça renvoie à la question qui a été traitée tout à l'heure, soit à quel moment on devient soi-même un acteur de l'emprise. Ouais. On est piégé par ce que l'on veut éviter.
Moi, je suis contente d'avoir enquêté pendant plusieurs années sur la question de la toxicomanie de rue, tu vois, parce que, je veux dire, c'était il y a très longtemps, hein, il y a 25 ans, mais à cette époque-là, on était, soit la personne est dans les drogues, dans ce cas-là, on ne peut pas travailler avec elle. Donc, soit elle est clean, elle est sortie des drogues, elle est clean, alors on peut commencer à travailler avec elle. Tu vois, on était là-dedans à l'époque. Donc, ça me renvoie à ce que tu dis. Or, c'est quand même aujourd'hui qu'il y a 36 000 façons de travailler avec des personnes dans les drogues, en réduction des risques. Que si tu dois attendre que la personne soit sortie des drogues pour commencer à l'aider, elle ne sortira jamais. Hein, donc, tu sais bien que tu dois travailler sur tout, plein de dimensions de son existence avec elle pour tenter de trouver des moyens quand même de la renforcer et de progressivement qu'elle trouve ses alternatives. Quoi, hein, donc, et que certains, ce sera chez un psy, mais beaucoup, c'est hors de psy aussi. Hein, donc, et donc, ce que tu dis là, ça me fait penser à ça. Donc effectivement, si on se dit on ne sait rien faire parce que la personne est sous emprise, on doit attendre qu'elle ne soit plus sous emprise pour pouvoir l'aider, on fait la même chose que ce qu'on a fait avec les toxicomanes pendant des années, qui a donné les années sida, qui a donné tous les morts avec lesquels les familles ont dû vivre à l'époque parce que les gens n'étaient pas aidés. Donc je crois que tu as tout à fait raison. C'est... Oui, tout à fait. Tout à fait juste. Oui. On ne doit pas attendre qu'une personne ne soit plus sous emprise pour pouvoir l'aider. On peut travailler sur tous les nœuds qui sont là, et puis un jour, les traces vont... Ouais. Les gens cherchent le puzzle de leur sortie. Personne n'a toutes les pièces, mais là où chacun est, tu peux amener quelques pièces. Ouais. Les chercheurs pourraient amener des pièces. Ouais. Les juristes, les travailleurs sociaux, oui, bien sûr. Ouais.
Mmh. Je voulais intervenir. Du coup, je suis Anne-Sophie Diblard, travailleuse sociale à la Fondation Refuge, où on accompagne et on héberge des jeunes de 18 à 25 ans qui font partie de la communauté LGBT+. Vous étiez en train de demander comment on est confronté à ces situations-là. Ça me fait penser à une situation d'un jeune qu'on accompagne actuellement qui est arrivé récemment. Ce jeune, il est arrivé, il vient de découvrir qu'il porteur du virus du HIV, du VIH, et il sait qui l'a contaminé, c'est son ex-compagnon violent qui l'a trompé, et ce jeune-là, on est en plein dans cette construction de la relation pour pouvoir l'accompagner, donc la construction du lien, et en même temps, il est lui aussi dans la réalisation de ce qui se passe pour lui. Dernier jour où il a vu son conjoint, en fait, il s'est fait tabasser, il s'est rendu compte qu'il le trompait. Et c'est qu'après, arrivé avec ses coups et blessures à l'hôpital, quand ils lui ont fait des examens, les analyses ont révélé le VIH. Et en fait, là, il est dans la désillusion de la vie. Il n'a que 19 ans. Il se dit, mais moi, j'en veux pas de cette maladie, je ne veux pas vivre tout ça. Et en même temps, tu as l'ex-conjoint qui revient à la charge, qui titille un petit peu toute sa personnalité, qui a une forme d'emprise sur parce qu'il est beaucoup plus âgé. Donc il y a plein de petits aspects et de porosité entre ce jeune qui n'a que 19 ans, qui est un jeune de l'ASE, qui a été rejeté par sa famille, donc qui a vécu de l'emprise familiale, qui a vécu plein de choses. Et ça me fait écho dans ce que vous disiez sur la répétition aussi. Et là, dans l'accompagnement, même si on essaye d'être soutenant, il fait ses allers-retours, donc il est reparti voir son ex-conjoint, parce que c'est ce qu'il connaît. Il est en difficulté dans la partie soins, que ce soit sur la partie du psyché ou sur la partie physique, donc il est en difficulté pour prendre ses médicaments. Donc voilà, ça fait écho à tout ça. Et en quelque sorte, on est obligé de laisser faire ses va-et-vient, on ne peut pas le retenir, il va venir. Et il n'est pas encore il sait ce qui se passe, il sait ce qui se joue, il sait qu'il y a des nœuds à défaire, comme vous dites, mais il n'est pas encore prêt à tout ça. Voilà, il sait en parler de cette manière que vous avez pu lui exposer pour Clara, pour d'autres, mais il n'est pas encore dans le côté dénouer ses vies. Et puis c'est tellement récent qu'il y a aussi cette partie-là.
Il est dans le vide. Exactement. C'est ça, hein, comme vous dites. Hein, donc, il n'y a pas de sens. Il est dans le vide. Et ça, le vide, c'est terrifiant. Hein. Après, on est encore capable de retourner sur ce qui vous a le plus blessé, juste pour sortir du vide, pour exister. C'est très long d'exister à nouveau. Surtout que lui, comme il n'a peut-être pas du tout été... Ouais, comme il passe d'une emprise à l'autre, comme il a un peu tout le terreau, quoi. Hein, donc, c'est même pas exister à nouveau, c'est exister tout court, quoi. Hein, donc, mais en tout cas, il a un lieu. et il a des liens. Après, ça va être très long. On le voit, hein. À votre tête, on voit que ça va être très long. Alors, ouais.
C'est hyper intéressant.
Et les autres jeunes qui sont hébergés, est-ce qu'il y a des groupes, est-ce qu'il y a des...
Alors, il y a des groupes qui se forment et qui se déforment, un peu la dynamique de groupe, entre le leader, le bouc émissaire, il y a toujours un petit peu des choses comme ça qui se forment. Et il y a aussi, avec l'échange d'aujourd'hui, je me rends compte qu'ils sont tous, on est quasi tous même, j'aurais été tous sous emprise de quelque chose en fait. C'est pas, en venant, j'avais très, comme disait monsieur tout à l'heure, le côté binaire, ou le côté relationnel, que ce soit couple, famille, ou des choses comme ça, mais ça va bien au-delà de ça en fait. Ça va aussi sur les croyances, ça va sur, c'est large, beaucoup plus large. Et les jeunes, c'est ce qu'on rencontre aussi, ce côté, le côté communautaire, le côté comment je dois me comporter face à, quelle image je dois montrer. Donc ça fait aussi ce côté d'emprise de l'image qu'on a de moi. Il y a plein de briques dans des briques, nœuds dans des sacs de nœuds, en fait. C'est exactement ça. Donc,
voilà. Après, se pose la question, parce que l'emprise, c'est un concept tellement flou qu'effectivement, ça nous touche tous, on est tous sous emprise de quelque chose. Le truc, c'est est-ce qu'ils sont emboucanés jusqu'à l'os? Voilà, c'est ça le... Tu vois, c'est pour ça que je préfère le vocabulaire de l'emboucanement, tu vois, parce que je trouve que... Ouais.
Alors, quand vous dites emboucanement, moi j'ai invité la réunion, emboucaner quelque chose, c'est l'écran de fumée, un peu, c'est faire cuire quelque chose sous fumée, emboucané, en fait. Ouais. Et moi, ça fait penser beaucoup à ça. Donc, emboucanement, c'est l'écran de fumée, quelque part, que je te fais voir. Tu ne vois pas réellement où tu t'embarques, mais tu y vas quand même.
Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. C'est mettre en place un dispositif de manipulation progressif pour pouvoir mettre sous silence et créer des alliances pour avoir des réseaux et pour progressivement te faire faire des trucs que tu n'avais pas envie de faire nécessairement, quoi.
Ouais. Le côté écran de fumée.
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, je comprends. Ouais. Ouais. Ah. D'autres réflexions, témoignages, pratiques que vous pourriez. Qui pourraient nous aider à penser tout ça? Vas-y. Oh ben moi, je l'ai fait pendant plein de temps. Hein. C'est un peu votre tour. Hein. Penser à Maudit Terrain, qu'il y a beaucoup dans le quartier femmes de la prison où je travaille maintenant. Donc, il y a des agentes qui sont pas du tout dans la relation. Il y en a d'autres qui sont très fortes dans la relation. Mais celles qui ne sont pas dans la relation, elles disent ouais, de toute façon, ici, parce que c'est tout des mort-nés. Hein, donc, je ne sais pas si on dit ça aussi chez vous, des mort-nés. Ça veut dire des femmes qui sont venues à la vie, mais elles étaient déjà mortes quand elles sont nées. Tu vois, donc de toute façon, elles ne pouvaient pas exister. C'est vraiment des déchets, quoi. C'est des morts-nés. Tu vois, donc, et alors, les détenues dans les ateliers philo, elles disent des trucs comme toi, tu dis, enfin, comme vous dites, je suis née à nouveau. En fait, dans ces ateliers philo, je suis née. Tu vois, ça, c'est un truc comme si il y avait une période de mort vivant, comme ça, tu vois, donc de mort-née. Et puis, dans le lien, et dans, enfin, quand des choses se retissent, des petits dénouements, tu as une autre vie qui apparaît. Donc, et c'est vrai que c'est une naissance, c'est quelque chose que les gens s'auto-engendrent, en quelque sorte, hein, quand ils ont une vie où finalement ils n'ont existé pour personne, quoi. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Avec un savoir. Un savoir que les autres n'ont pas. Donc, ça, c'est un truc. Dans mon métier, petit à petit, on s'aperçoit. Parce qu'au début, on croit que l'intelligence, c'est l'université, machin chouette. Au début, on croit des trucs comme ça, des trucs tout à fait, comme tu dis là, complètement halluciné, quoi. C'est halluciné de penser ça. Et puis, on se rend compte que l'intelligence, elle est vraiment bien distribuée dans la population. Et par exemple, ce que cette jeune femme, elle vous explique, c'est hyper malin, quoi. C'est hyper fin, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté. C'est pour ça que je pense que mettre en recherche les gens, c'est tout aussi important que de les mettre en clinique ou de les mettre en travail social, hein, de les mettre en recherche pour d'autres. C'est quelque chose qui... Vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour les autres de capter comme vous le faites, quoi, de capter des moments et puis de pouvoir garder les traces de toute cette intelligence des situations, quoi. Ouais. Dans les quartiers, ça a été très compliqué aussi, hein, de voir comment on peut transformer une émeute en une action de résistance concertée pour faire changer des rapports de domination. Mais j'imagine que dans une structure d'hébergement, c'est pareil. Comment tu peux transformer une rage à l'état brut, là, tu vois, quelqu'un qui devient un bouc émissaire, en une force de vie et organisée avec une méthode, quoi. Comment tu peux... Comment les gens peuvent... Ouais. Ce processus de métamorphose qui transforme une rage en une force, quoi. Et c'est très complexe pour nous toutes, hein, pour nous tous. C'est vraiment... Mais c'est vrai que nous tous, on n'est pas en hébergement. Donc même si on a ça, on prend le temps et tout, si on est en hébergement, ça, c'est grave. Ah ouais, là, ça peut être vraiment très grave. C'est vrai. Si on tombe sur des gens qui sont rigides, hein, qui disent, ouais, de toute façon, c'est des morts-nés. ça peut être très grave dans la vie des gens, oui, c'est vrai.
Il y a un temps, là, je voulais que comment transformer de la rage individuelle en temps positif de déplacement de soi et de sortie de l'entreprise, tout en garantissant une vie en collectivité qui ne permet pas les rages individuelles.
C'est le métier, ça. C'est le métier et c'est le collectif. Hein. Si les gens ils ont pas de lieu de concertation, ils vont agir de telle manière à éjecter toutes les personnes qui posent problème. S'il y a des espaces de concertation, etc., un peu comme il raconte Serge, hein, si on est un vrai collectif, on peut peut-être mieux gérer ce difficile tissage de relations qui permet de ne pas être débordé. En pouvant utiliser les choses comme des forces, quoi. Enfin, le vécu des gens comme des forces. Oui. Moi, je peux aller sur étude de cas, les amis. Hein. C'est pas de problème. Hein. Mais je peux. On a jusqu'à midi et demi, c'est ça que tu disais, ou midi.
Dans quel état est l'Assemblée déjà?
Oui.